Je voudrais lire le chapitre 14 de l'Apocalypse. On va voir qu'il y a quelque chose qui se rapporte au cantique que nous avons chanté, où il est question de marcher en paix et que nous allons dans le ciel célébrer ta victoire. Alors je lis le chapitre 14 de l'Apocalypse. Et je vis, et voici l'agneau se tenant sur la montagne de Sion, et avec lui 144 milliers, ayant son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'ouïs une voix venant du ciel, comme une voix de grandes eaux, comme une voix d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme des joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre animaux et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, sinon les 144 milliers qui ont été achetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ceux-ci ont été achetés d'entre les hommes, des prémices à Dieu et à l'agneau, et il n'a pas été trouvé de mensonge dans leur bouche. Ils sont irréprochables. Alors, première série. Et je vis un autre ange volant par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel, pour l'annoncer à ceux qui sont établis sur la terre. C'est ceux qui sont établis, pas ceux qui habitent sur la terre. Et à toute nation et tribu et langue et peuple, disant à haute voix, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et rendez hommage à celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les fontaines d'eau. Et un autre, un second ange, suivi, disant, elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, qui du vin de la fureur de sa fornication a fait boire à toutes les nations. Et un autre, un troisième ange, suivi cela, disant à haute voix, si quelqu'un rend hommage à la bête et à son image, et qu'il reçoive une marque sur son front ou sur sa main, lui aussi boirait du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont aucun repos, ni jour ni nuit, ceux qui rendent hommage à la bête et à son image, et si quelqu'un prend la marque de son nom. Ici est la patience des saints, ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'ouïs une voix venant du ciel disant, écris, bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur dorénavant. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Alors, verset 14. Et je vis, et voici une nuée blanche, et sur la nuée quelqu'un assis semblable au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant à haute voix à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, parce que la moisson de la terre est desséchée. Et en note, c'est plus que mûr. Et celui qui était assis sur la nuée mit sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. Alors pour la compréhension, donc retenons qu'il y a dans ces versets 14 à 16, il y a deux personnages. Il y a le Fils de l'homme assis sur une nuée, et puis il y a un ange qui lui parle, sorti du temple. Alors, dans les versets 17 à 20, c'est plus la moisson, c'est la vendange. Et on a de nouveau deux personnages, mais c'est deux anges différents des précédents. Alors, verset 17. « Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange ayant pouvoir sur le feu sortit de l'autel et, en jetant un grand cri, il cria à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins ont mûri. » Et l'ange mit sa faucille sur la terre et vendangea la vigne de la terre, jeta les grappes dans la grande cuve du courroux de Dieu, et la cuve fut foulée hors de la ville. Et de la cuve, il sortit du sang jusqu'aux morts des chevaux sur un espace de 1600 stades. Alors, dans les chapitres 6 à 11 de l'Apocalypse, on a le déroulement des événements après l'enlèvement de l'Église. C'est un déroulement des événements de façon imagée, mais plutôt chronologique. Dans les chapitres 12 à 14, alors les choses sont reprises pour nous donner les personnages, les agents réellement actifs et quelles sont leurs motivations, quelles sont les actions profondes qui caractérise ce qu'ils font. Disons que c'est d'ailleurs quelque chose d'important et intéressant dans un temps où les gens discutent de complotisme et de conspirationnisme, et en fait on voit très bien la parole de Dieu elle-même distingue bien. Il y a les événements qui se déroulent et puis il y a ceux qui agissent par derrière. Bon, alors, dans ces chapitres 12 à 14, ceux qui agissent par derrière. Alors, dans les chapitres 12 à 13, c'est ceux qui agissent pour le mal. Dans le chapitre 14, c'est, si on peut s'exprimer ainsi, ceux qui agissent pour le bien, ceux qui sont du côté de Dieu. Alors, je résume brièvement les chapitres 12 et 13. Chapitre 12, c'est Satan, son objectif, premièrement, c'était dévorer le fils mâle, c'est-à-dire anéantir Christ, c'était son but. Ensuite, comme il n'y est pas arrivé, il persécute la femme qui avait enfanté le fils mâle, c'est-à-dire persécute le peuple d'Israël. Et puis, à défaut, quand il n'y arrive pas, il persécute, verset 17 du chapitre 12, le résidu de la semence de la femme, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, c'est-à-dire des vrais fidèles qui ont la vraie vie de Dieu. Donc on voit Satan objectif contre Christ, contre Israël. Contre Israël, c'est parce qu'on est après le retour du Seigneur, c'est-à-dire les événements de la terre qui ont repris leur importance. Et puis donc, contre Israël et ensuite contre les résidus croyants. Chapitre 13, donc, il y a deux agents de Satan, la première bête, la deuxième bête, enfin des bêtes, sauf que c'est des hommes, mais ils sont appelés bêtes parce qu'ils n'ont aucune relation avec Dieu. Et le premier, c'est le pouvoir civil, il a reçu tout son pouvoir du dragon, de Satan. La deuxième bête, c'est l'Antichrist. C'est religieux, mais c'est, si on peut s'exprimer ainsi, une religion athée, c'est pas Babylone. Bon, alors, on s'occupe du chapitre 14. Alors, devant tout un déploiement d'énergie satanique, on voit dans le chapitre 13 avec la bête, elle a pouvoir. Verset 7, pouvoir sur toute tribu, peuple, langue et nation. Tous les gens, verset 4, rendent hommage à la bête. Qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? Et puis la bête elle-même qui profère de grandes choses, c'est-à-dire des blasphèmes. Disons, elle a une puissance mondiale, totalitaire, déchaîné contre Dieu. Bon. Alors, on dirait, mais contre une telle puissance satanique, il faut faire quelque chose. Il faut prendre des mesures, il faut prendre des actions, il faut... Et alors, c'est très frappant, c'est un des aspects extraordinaires de ce chapitre 14. C'est de voir que, en face de tout ce déchaînement d'action de Satan, de la première bête, de l'Antichrist, bien, Dieu ne se fait pas mener par eux. Ce n'est pas eux qui définissent le cours des événements. Ce n'est pas eux qui déterminent ce que Dieu a à faire, ni ce que les croyants ont à faire. Alors, de quoi ceux qui sont du côté de Dieu, de quoi ils sont occupés? Alors, la première chose, il y a donc cette voix qui vient du ciel. Alors, il est dit comme des joueurs de harpe. Alors, la harpe, dans la parole et dans l'Ancien Testament, elle est toujours l'image musique céleste. Et c'est bien le cas ici. Et donc, musique céleste, ce qui implique que c'est des cantiques de louanges. Et alors, c'est comme de grandes eaux et comme un grand tonnerre. Ça veut dire que d'un côté, il y a quelque chose d'heureux et de béni parce que c'est des cantiques joués sur la harpe. D'un autre côté, ça détermine que ça va avoir pour effet des jugements terribles. C'est le tonnerre avant la tempête. Et alors, il y a des fidèles, donc, qui suivent l'agneau. C'est verset 4, ils suivent l'agneau. Et verset 1, ils sont avec l'agneau sur la montagne de Sion, sont 144 000, je ne m'appesantis pas sur ces questions-là. Mais c'est donc des fidèles qui ont la connaissance de Dieu et du Père. Ils ont le nom de l'agneau et le nom du Père écrit sur leur front. C'est d'ailleurs en contraste avec la marque de la bête. Alors on voit que chacun, ceux qui sont contre Dieu et ceux qui sont pour Dieu, ils ont tous la marque. Mais le fait qu'ils aient sa marque, ça montre que c'est deux catégories bien tranchées. C'est comme aujourd'hui, il y a ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne sont pas. Et toute la chrétienté tend à mélanger et confondre ces deux catégories, et la parole ne les confond pas du tout. Alors, donc, ces cantiques nouveaux, alors nouveaux parce que c'est des circonstances, des conditions complètement nouvelles, et ceux qui apprennent le cantique, c'est donc ces 144 milliers achetés de la terre, c'est ce résidu fidèle sur la terre, qui apprennent ce cantique céleste. Alors on voit le lien entre les fidèles sur la terre et puis ce qui se passe dans le ciel. Alors déjà là on est frappé, parce que donc il y a des cantiques de louanges à Dieu, alors que c'était le propre de la bête, la première, c'était de proférer de grandes choses et des blasphèmes, verset 5. Verset 6, des blasphèmes contre Dieu, contre son nom, contre son habitation, contre ceux qui habitent dans le ciel. Il y a un déchaînement de méchanceté dans leurs propos et de prétentions. Et en face de ça, de quoi les croyants sont occupés? Ils ne sont pas occupés d'aller réfuter ces blasphèmes, d'aller réfuter ces méchants propos. Ils sont occupés de chanter le cantique nouveau et puis de suivre l'agneau. Alors on dirait, mais on va dire, mais c'est pas très efficace, ça n'a pas beaucoup d'effet. Mais au fond, déjà là, on voit quelque chose de très frappant. C'est qu'est-ce qui a de l'importance pour Dieu? Alors, nous avons eu le privilège de rendre le culte ce matin, et comme d'autres dimanches. Et on voit que, au fond, pour Dieu, c'est ça les choses importantes. le monde fait exactement le contraire. Et pour nous, eh bien, il y a cette louange qui monte. Et c'était d'ailleurs le début du premier verset de ce cantique 88. « Seigneur, c'est à tes saints, malgré leur faiblesse, de dire tes bienfaits, d'exalter ta tendresse. » Et il y a un culte rendu à Dieu, mais pas rendu à Dieu, je dirais contraint et forcé, parce qu'on est obligé, mais un culte rendu à Dieu de tout cœur, parce qu'on est en rapport avec l'agneau, en rapport avec le Père, en rapport avec le ciel, et on est complètement à part de ce déchaînement de méchanceté sur la terre. Alors, on pourrait dire, mais comment ça se fait que Dieu laisse faire? Mais c'est un des points de ce chapitre 14, c'est que, oui, d'un côté, Dieu laisse faire, mais il laisse faire parce que ça manifeste complètement le fond des cœurs. C'est des actes, les actes qui ont lieu, qui sont relatés dans ces chapitres, c'est ceux qui manifestent ce qu'il en est des cœurs des opposants. Et alors, Dieu a le dernier mot, il aura son action, il va y avoir la moisson, la vendange, mais en son temps. Et pendant ce temps-là, Dieu fait autre chose. Alors c'est très frappant parce que, disons, pour nous, surtout dans un temps où on voit le mal se développer, se déchaîner, pas seulement la pandémie, mais tout ce qui tourne autour des mesures qui sont prises, un déchaînement contre Dieu. Et alors on voit la grande occupation, eh bien, c'est rendre culte, chanter le cantique nouveau et suivre l'agneau. Alors, suivre l'agneau, là aussi, notre cantique, il dit « nous cheminons en paix ». Alors, effectivement, il chemine en paix. Alors, on dit « mais comment on peut cheminer en paix quand on voit le déchaînement du mal dans ces chapitres 12 et 13 ?» Eh bien oui, c'est cela le chemin de fidèle. Alors, ce n'est pas tout à fait des croyants du temps de l'Église, je ne rentre pas dans ces distinctions par rapport aux résidus juifs, mais au fond, le chemin de la foi est le même dans tous les temps. Alors, on voit aussi le côté « ils suivent l'agneau », mais dans la sainteté, et puis pas de mensonge. Alors, on est dans un temps où la corruption morale se déchaîne plus que jamais. Le mensonge, on parle beaucoup de fake news, mais plus les gens parlent de fake news, plus il y a du mensonge dans les bouches. Alors, on voit là, il n'y a vraiment pas de mensonge. Parle la vérité. Alors, c'est très frappant de voir qu'il ne se passe rien d'autre dans ces versets 1 à 5. Mais on a ce tableau de gens qui suivent l'agneau et qui chantent un cantique nouveau. Et c'est ça l'important en face du déchaînement de ce qui se passe sur la terre. Alors, Dieu est-il insensible à ce qui se passe sur la terre? Alors, verset 6, voilà l'ange qui a l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui sont établis sur la terre. Il est dit établi, c'est assez remarquable, parce qu'il est question un grand nombre de fois dans le reste de l'Apocalypse de ceux qui habitent sur la terre, par exemple chapitre 13, verset 8 et d'autres. Mais ça a un caractère moral de gens qui ont pris leur parti de ce côté-là. Ceux qui sont établis, c'est différent. Eux, ils peuvent encore écouter l'Évangile éternel. Alors, je ne vais pas discuter ce qu'est exactement l'Évangile éternel, mais retenons simplement qu'il y a cette pensée que toujours, eh bien, Dieu annonce une bonne nouvelle. Il a commencé par annoncer la victoire sur le serpent à Adam et Ève dans le jardin, et la bonne nouvelle, maintenant, les choses se sont précisées avec le salut en Jésus-Christ, mais il y a éternellement une bonne nouvelle à annoncer, et à annoncer à toute nation, tribu, langue et peuple. Alors, les deux bêtes de chapitre 13 font leur propagande, Et la deuxième bête, l'Antichrist, il fait des miracles pour séduire et pour rendre hommage à la bête. C'est l'objectif de l'Antichrist, chapitre 13, verset 14, disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image. C'est dans ces versets qu'il est dit, c'est verset 12 plutôt. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle et fait que la terre et ceux qui habitent sur elle rendent hommage à la première bête. Donc l'objectif de l'Antichrist, c'est rendre hommage à la première bête, le pouvoir civil qui domine tout. Et nous, on a ce cantique nouveau, on rend hommage aussi, mais à Dieu, au Seigneur Jésus. Alors on voit que la question de culte et de rendre hommage, c'est un nœud, un point clé. À qui on rend hommage? On rend toujours hommage à quelqu'un. Mais là, les uns, c'est au pouvoir civil sur la terre, les autres, c'est à Dieu. Et d'ailleurs, dans cet évangile, verset 7, c'est « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, rendez hommage à celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les fontaines des eaux. » C'est-à-dire, c'est le Dieu créateur. Ah, c'est très frappant parce qu'on est dans un temps où non seulement les enseignements courants nient Dieu, mais ils nient même la création. C'est l'évolution, tout s'est fait tout seul, et on est parti de rien, et hop, ça s'évolue et ça fait tout seul. Et on voit que cet hommage rendu au Dieu créateur, on dira, mais c'est basique ça, on n'en est pas au stade du Dieu sauveur, du Seigneur Jésus et de ses droits. C'est vrai, on en est au stade basique du Créateur. Mais les choses dans le monde sont à un niveau tel que c'est bien ce niveau-là par lequel il faut commencer, que chacun et que les jeunes qui vont dans les écoles soient bien persuadés de l'hommage qu'il faut rendre au Dieu Créateur. Pas l'évolution. Alors, donc, l'évangile se répand. Alors, on dira, mais l'Antichrist, il fait tout. La première bête, elle fait sa propagande. C'est épouvantable. C'est vrai, tout ça. Mais Dieu répand sa parole. Et c'est encore le cas maintenant. On dira, mais qui c'est qui écoute? Mais il y a des gens qui écoutent. Mais on ne les connaît pas forcément tous, parce que les choses se font discrètement, pour ne pas dire secrètement. Et Dieu fait son travail et il répand sa parole. Alors on dirait, mais il répand sa parole, mais quand on voit toute cette puissance qui se développe dans les chapitres 12 et 13, qu'est-ce que c'est que juste un message d'évangile? Eh bien oui, il faut être convaincu de la puissance de la parole de Dieu, de la puissance de l'évangile et de ce que Dieu le fait connaître. Les moyens, ça c'est autre chose et on ne les connaît pas forcément. Alors ensuite, on a la chute de Babylone. Alors disons que pour qu'on comprenne, il faut se rendre compte que ce verset-là n'est pas chronologique. Le chapitre 14 n'est pas pour nous donner un déroulement chronologique des événements, il est pour nous donner des événements clés qui montrent qui sont les puissances agissantes, qui sont les agents de Dieu et quelles sont les actions importantes qui se passent. Mais ce n'est pas la chronologie là, parce que la chute de Babylone, on la retrouve en détail au chapitre 17 et 18. Ici, d'ailleurs, il n'est pas dit qui c'est qui l'a fait tomber. Dans le chapitre 17, on voit que c'est les rois de la terre. Et Babylone, bon, c'est la fausse église, on la voit déjà maintenant. Autrefois, on croyait que c'était l'œcuménisme à l'intérieur de la chrétienté. C'est pas faux, mais maintenant, Babylone va plus loin. Maintenant, c'est la fusion avec toutes les religions, y compris l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme et tout. Et avec la prétention d'être un acteur religieux, une puissance religieuse, une religion. Et alors, c'est un agent particulièrement haï de Dieu, parce que c'est de l'idolâtrie. Et il faut retenir que sa destruction, elle est faite par les rois de la terre, elle n'est même pas faite ni par le Christ, ni par des anges. Mais il faut qu'elle soit détruite avant les noces de l'agneau. Mais je ne m'étends pas sur cette question-là, c'est simplement... Il y a une joie là qui, on dirait, mais le pouvoir religieux de Babylone, c'est rien du tout. Puisqu'il est question là du pouvoir civil avec la première bête, de l'Antichrist qui n'est pas Babylone. Alors pourquoi il est parlé de Babylone? Mais c'est parce que moralement, elle a été la grande idole qui a séduit les foules, y compris la chrétienté. Alors c'est important de penser, d'annoncer qu'elle tombe. Les versets 9 à 12, c'est donc l'annonce que ceux qui ont la marque de la bête iront en enfer. Je simplifie, mais c'est ça quand il est tourmenté dans le feu et le soufre, et puis la fumée du tourment qui monte au siècle des siècles, c'est des expressions qui caractérisent l'enfer et qui marquent tous ceux qui reçoivent l'image de la bête sur le front ou la main, c'est activité intellectuelle ou manuelle. Et alors, on dira, mais pourquoi, quelle est l'utilité ou quelle est l'importance de cette annonce du sort éternel de ces gens-là? Et c'est parce que cette question de la marque de la bête, dans le chapitre 13, elle est capitale, puisque on voit que à un moment, le chapitre 13, verset 15, l'Antichrist, il fait que tous ceux qui ne rendent pas hommage à l'image de la bête sont mis à mort, que, verset 17, on ne peut plus acheter ou vendre si on n'a pas la marque de la bête et le nom de la bête, mais alors on dit, mais on ne peut plus acheter et vendre, alors c'est, on ne peut plus manger, mais peut-être, peut-être. Et alors c'est justement d'ailleurs pour ça que la mort et la mort des martyrs apparaît souvent dans l'Apocalypse, dans le cinquième sceau du chapitre 6, on a les âmes de ceux qui ont été mis à mort, qui crient sous l'autel, qui réclament. Mais on voit que cette méchanceté des agents de Satan, ce n'est pas seulement une méchanceté de corruption morale, mais c'est une méchanceté de détruire les opposants. Et détruire, même par la détresse de ceux qui n'ont plus rien, ils sont pillés et ils ne peuvent plus acheter et vendre. Qui meurent de faim, tant pis pour eux. C'est le raisonnement qui prévaut. Et alors, on dira, mais Dieu laisse faire. Encore une fois, ben oui, il laisse faire jusqu'au toute l'Apocalypse. C'est le déchaînement final où Dieu montre l'homme sans Dieu jusqu'où il va. Mais il ne faut pas croire qu'ils sont indemnes, impunis pour autant. Dieu sait punir qui il faut et quand il faut. Et cela, ça sera en son temps. Tous ceux qui auront la marque de la bête, ils ont non seulement la colère de Dieu, mais il est dit la fureur de Dieu, le vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Les mots s'accumulent les uns et les autres pour montrer une colère de Dieu absolument terrible. Alors, dans un temps, un premier temps, on a l'impression de cet antichrist et puis cette image de la bête, tout ça, on a l'impression qu'il gagne tout sur tous les tableaux. Mais c'est temporaire et apparent. Et ils accumulent en fait ce qui va causer leur tourment. Alors après, il y a le bienheureux. Bon, on cite souvent ce verset 13 dans tous les enterrements, mais il est là le sens profond de ce verset 13. C'est la consolation pour ceux qui sont mis à mort par le pouvoir hostile. Et quelle consolation que ces gens qui ont été mis à mort de façon méchante par ceux qui rendaient hommage à la bête et à son image, eh bien, ceux qui ont tenu ferme dans tout ce temps-là, ils sont mort. Alors on dirait, ben, ils ont tout perdu. Mais non, ils n'ont pas tout perdu. La parole insiste pour dire bienheureux. Et ils se reposent de leurs œuvres car leurs œuvres les suivent. Alors on aurait tendance à dire, mais qu'est-ce que c'est cette expression, c'est le salut par les œuvres. Ce n'est pas le salut par les œuvres, mais on comprend bien que des gens qui ont été martyrs, qui ont souffert, à qui on a interdit d'acheter et de vendre, eh bien, quelles œuvres ils ont fait d'arriver à survivre dans des temps comme ça, survivre temporairement, puisque finalement ils sont mis à mort, mais Dieu sait tout, il a tout retenu, leurs œuvres les suivent et ils auront leur récompense. Et Dieu sait, c'est pas seulement qu'il s'est délivré comme dans l'épître de Pierre, mais il s'est récompensé, même ceux qui ne peuvent pas échapper à la mort. Retenons aussi une expression qui est frappante, c'est verset 12. Ici est la patience des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alors, pourquoi les questions de patience? Parce que la tendance naturelle est surtout vis-à-vis de cette bête qui impose son gouvernement et sa puissance, c'est d'entrer en résistance. La France s'est très bien vantée les résistants, la résistance, les anciens résistants. Alors, il faut résister. C'est le courant et la tendance naturelle, et on comprend cela. Et c'est ce qu'a souhaité faire l'apôtre Pierre quand, dans le jardin de Gethsémané, il a tiré son épée pour couper l'oreille de Malchus. C'est ça qu'il voulait faire, c'est se défendre. Et on avait déjà ça, alors chapitre 13, verset 10. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints. C'est la même expression que celle du chapitre 14, verset 12. Et en fait, c'est la même exhortation. C'est la tendance, c'est de dire, bon, il faut résister, il faut se révolter, il faut prendre l'épée, il faut faire des mouvements subversifs, des mouvements d'action. Et puis, Dieu donne cette instruction qui a été celle quand le Seigneur a parlé à Pierre en Jean 18, « La coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas ?» Eh bien, oui, il ne fallait pas couper l'oreille de Malchus. Il ne fallait pas prendre l'épée. Et il ne fallait pas tuer par l'épée. Et si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à un des réformateurs, Zwingli, celui de la Suisse allemande. Il a pris l'épée, il a fait la guerre et il était mort par l'épée. Mais on voit cette exhortation à la patience, elle prend une force toute particulière dans des temps où on se dit « mais il faut faire quelque chose ». Alors on a l'impression que Dieu ne fait rien, que les actions, il n'y a rien qui se passe. Mais Dieu voit tout, il contrôle tout. Alors, ça se termine effectivement par une moisson et une vendange. Bon, les deux sont assez parallèles. Il y a donc, dans les deux cas, il y a quelqu'un qui a la faucille pour couper et puis quelqu'un qui lui dit que c'est le moment de lancer la faucille. C'est comme s'il y avait celui qui actionne et puis celui qui analyse si c'est le temps approprié. Alors, la moisson, il n'est pas dit exactement ce qui est moissonné. Parce que, en fait, dans Matthieu 13, il est question de récolter le froment, le blé, mais il y a aussi l'ivraie qui est coupée au moment de la moisson et mise en botte à ce moment-là. C'est-à-dire que la moisson, il y a la moisson du blé, oui, mais il y a la moisson de l'ivraie. Et puis, donc, c'est sélectif, il y a une distinction qui est faite. Alors, le chapitre ici ne rentre pas. Non. Et puis, la moisson, alors, dans le cas de Matthieu 13, il est renvoyé à la moisson finale, quand il faudra couper l'ivraie aussi, mais dans Jean 4, C'est assez frappant que dans Jean 4, quand le Seigneur dit « Voici, levez vos yeux, les champs sont blancs pour la moisson », et les disciples sont comparés aux moissonneurs. Ils sont comparés aux moissonneurs dans le sens qu'ils récoltent les fruits de ceux qui ont semé au préalable, c'est-à-dire les prophètes de l'Ancien Testament. Alors, ici, dans ce chapitre 14 de l'Apocalypse, le terme moisson n'est pas précisé. Il n'y a pas le détail de ce qui est moissonné, même pas le détail de ce qu'on fait du blé, ce qu'on fait des livrées, ce qu'on fait de toutes ces choses-là. Il est simplement dit que c'est la moisson. Dieu récolte. Alors, il y a un autre aspect qui est très frappant dans cette idée de récolter, c'est que on pourrait, dans les idées simples qu'on pourrait avoir nous-mêmes, c'est de se dire, bon, il y a eu le développement du mal dans les chapitres 12 et 13, des actions qui méritent l'enfer selon le chapitre 14, verset 11, alors il va y avoir le jugement en face. Et ce qui va déclencher, c'est le sommet de l'action du mal, et il va enfin déclencher le jugement. Bon, c'est pas faux, mais ici les choses sont présentées comme une moisson, c'est une culture, comme s'il y avait un cultivateur qui a ses cultures et puis qui regarde quand c'est que la moisson est mûre, desséchée, il est dit plus que mûre. Et au fond, c'est aussi un de ces points que j'ai trouvé tellement frappant et intéressant de penser que ce qui détermine l'action de Dieu, c'est pas réellement telle action de l'Antichrist ou telle action du pouvoir civil. C'est, il est le cultivateur, il moissonne, il regarde quand c'est mûr, quand c'est le moment de faire le travail, et il le fait à ce moment-là. C'est lui qui apprécie l'État, mais c'est pas en fonction des actions, c'est en fonction de l'État, de la nature des choses. Et alors, pour la vendange, c'est la même chose. Le moment de lancer la faucille tranchante, la fin du verset 18, il est déterminé parce que les raisins sont mûrs. Il n'est pas dit parce que l'Antichrist est devenu insupportable, ou parce qu'il en a trop fait. Non. Dieu regarde, c'est lui le cultivateur, c'est lui qui a tout dans sa main. La terre lui appartient non seulement comme créateur, mais le Seigneur a acheté le champ et le trésor, c'est Matthieu 13 là aussi. Il a acheté et tout lui appartient, et c'est lui qui décide quand la culture est venue à pleine maturité. Alors, on l'a souvent dit, le moisson est un jugement sélectif dans le sens, il y a un tri entre le blé et puis l'ivraie, tandis que dans la vendange, il n'y a pas de tri. Tout est mis dans la grande cuve, mais c'est la cuve du courroux de Dieu, et il n'y a que du destructif. Alors ensuite, le chapitre 15 arrive, disant que ça reprend, si on peut dire, chapitre 15, c'est celui qui est introductif des sept coupes du chapitre 16, c'est les jugements tout à fait finaux de la fin. On arrive vraiment au moment où le règne de paix pourra commencer après. C'est encore l'intervention du Seigneur juste avant son apparition. Je ne rentre pas dans ces détails. Mais retenons simplement encore une fois l'importance de ce chapitre 14 qui montre, qui est en contraste avec les chapitres 12 et 13. 12 et 13, c'est les agents de Satan. Satan lui-même, chapitre 12, ses agents, pouvoir civil et antichrist, chapitre 13. Et qu'est-ce que Dieu fait en face? C'est le chapitre 14. Ses actions, ses agents, il est au-dessus de tout. Il y a le cantique qui se joue dans le ciel, ceux sur la terre qui apprennent ça, qui suivent le Seigneur. Ils suivent le Seigneur, mais il n'est pas dit que le Seigneur, il est dit qu'ils suivent l'agneau, ce qui souligne qu'ils ont ce côté de patience et il ne cherche pas à dominer. Et puis, Dieu répand son évangile, et puis tout ce qui s'oppose, que ce soit Babylone, que ce soit la marque de la bête, même si on veut tuer les martyrs, eh bien, tout ça, ça tombe, et Dieu fait sa moisson. Dieu, c'est le Fils de l'homme, au verset 14. Le verset 14, c'est le Fils de l'homme qui fait la moisson, c'est le Seigneur de la moisson. La colère destructive, c'est le courroux de Dieu. Il n'y a pas ni l'agneau, ni le Seigneur Jésus. C'est volontaire qu'il y ait ces distinctions. Et bien que nous puissions ainsi creuser, voir et apprécier davantage ces chapitres de l'Apocalypse qu'il ne faut pas voir comme des chapitres ténébreux où on ne comprend rien, où il y a des images difficiles à interpréter, mais il y a au contraire des instructions pour déterminer le caractère moral de ce qui plaît à Dieu dans des temps de bouleversement. Alors nous ne sommes pas encore dans le temps de l'Apocalypse, parce que l'enlèvement de l'Église n'a pas encore eu lieu. L'enlèvement de l'Église correspond au chapitre 4, verset 1. Mais on est quand même dans des temps qui ressemblent de plus en plus. On est sur la voie, c'est des amorces, ce qu'on voit actuellement. Et ça nous permet de nous mettre de plus en plus dans la peau de ces gens qui vont être les martyrs. Mais au fond, ça nous aide à connaître ce qui est l'esprit, le genre de pensée qui doivent remplir les fidèles dans tous les temps. Bien que le Seigneur nous donne de profiter davantage de sa parole et de ne pas décréter que c'est des passages obscurs qu'on ne peut pas comprendre. Et au contraire, comme il est dit au début, bienheureux celui qui lit. Jusqu'ici.